France Internationale, il est 15h10 dans nos studios à Paris, 2h de moins, 13h10 en temps universel. Place au journal d'Haïti et des Amériques. Vous êtes en compagnie de Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Raphaël, merci. Il est 9h10 à Santiago. Le Chili, où l'Assemblée constituante est au travail après l'entrée en fonction hier de ses membres. On va revenir sur cette journée. Les feux au Canada, les pluies d'Elsa dans les Caraïbes, les affres de la météo font la une aussi ce lundi. Ce sera juste après notre dossier du jour consacré à la guerre politique entre le camp Morales et son opposition en Bolivie. Toujours d'actualité un an et demi après le départ du pouvoir de l'ancien président. Et puis, le Covid, Benoît Ferrand lui fait toujours la une en Martinique et dans votre journal de la première.
Le Covid, le coronavirus, est en effet toujours là, ce qui inquiète beaucoup l'Agence régionale de santé, d'autant qu'on ne se bouscule pas, paraît-il, dans les centres de vaccination.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. Et maintenant, le plus dur reste à faire. Au Chili, le compte à rebours est lancé. La toute nouvelle Assemblée constituante dispose d'un an pour écrire une nouvelle loi fondamentale. Ses membres, élus à la mi-mai, ont officiellement pris leurs fonctions hier et ont choisi pour les diriger une femme mapuche comme présidente. On revient avec Justine Fontaine sur cette journée marquée aussi par des manifestations à Santiago.
Sans la mobilisation des Chiliens dans la rue il y a 2 ans contre les inégalités sociales, il n'y aurait pas eu d'assemblée constituante. C'est ce qu'ont voulu rappeler des milliers de manifestants dès dimanche matin, comme Ismaël, 54 ans.
Nous sommes persuadés que ce processus aboutira à quelque chose de bon. Pour l'instant, notre constitution est celle que nous avons héritée de la dictature. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer les choses, pour de bon.
Une heure plus tard, dans le centre de Santiago, des manifestants arrivent aux portes de la session inaugurale de l'Assemblée constituante. Des élus interrompent la cérémonie pour protester contre l'intervention de la police. Puis l'Assemblée élit sa présidente, Elisa Loncón, membre du peuple indigène mapuche.
Cette assemblée que je préside aujourd'hui transformera le Chili en un État plurinational, interculturel. Un Chili qui ne porte pas atteinte aux droits des femmes et qui prenne soin de la terre-mère.
La journée se termine par 1 minute de silence en hommage aux victimes de violences policières, aux victimes de la répression contre les indigènes, aux victimes de la dictature de Pinochet et enfin aux victimes de féminicides. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Une nouvelle assemblée, bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Qui fait bien sûr la une de la presse aujourd'hui pour l'éditorialiste de la Tercera. C'est notamment le rôle de premier plan joué par les peuples autochtones qui restera l'une des images fortes de cette journée d'hier.
Elisa Loncón, 58 ans, femme, mapuche, docteur en sciences humaines et première présidente de cette assemblée constituante. Tout un symbole pour la Tercera qui revient effectivement sur la carrière de celle qui, pour aller à l'école, devait parcourir 8 kilomètres, souvent à pied. J'ai travaillé dur pour étudier, explique-t-elle. J'ai utilisé ces études pour comprendre la condition d'oppression dans laquelle vivait notre peuple. Elle entend aujourd'hui garantir les droits de ces peuples autochtones à travers cette nouvelle constitution, sans folkloriser ou ridiculiser leurs traditions. C'est d'ailleurs dans sa langue maternelle qu'Elisa Loncón a débuté son discours, comme le note Diario Financiero.
Une assemblée née en quelque sorte, vous l'entendiez, donc des manifestations de fin 2019 quand la Bolivie, elle aussi, était secouée par une vague de contestation à la suite de la réélection d'Evo Morales pour un 4e mandat présidentiel. Accusé de fraude, il a été poussé vers la sortie puis s'est exilé. Et c'est alors Jeanine Agnès, sénatrice de droite jusqu'ici inconnue, qui a pris les rênes du pays. Tout cela, si vous me suivez, nous amène jusqu'à l'élection en octobre dernier de Luis Arce, ancien ministre de Morales. Les siens au pouvoir, l'ex-président est donc rentré au pays et aujourd'hui, eh bien, lui et son camp semblent déterminés à régler leurs comptes et prouver que c'est bien un coup d'État qui a eu lieu fin 2019, Alice Campagnol.
Complicé ! Complicé ! Complicé !
Le ministre de l'Intérieur qualifie les députés de l'opposition de complices, complices du coup d'État de novembre 2019, dit-il. Nous sommes le 8 juin 2021. Le ministre Eduardo del Castillo est à la tribune du Parlement pour se justifier quant à l'arrestation de l'ex-présidente poursuivie pour terrorisme et sédition. La session est jusqu'ici assez mouvementée, ponctuée de cris et de sifflets, quand soudain, deux députés en viennent aux mains. Cet épisode n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des tensions que créent toujours un an et demi après les événements de novembre 2019 qui se sont soldés par le départ d'Evo Morales. Son parti, le MAS, est depuis revenu au pouvoir et veut éclaircir les circonstances exactes de ce qu'il appelle le coup d'État. Jorge Richter, porte-parole présidentielle.
Nous nous devons de donner une réponse institutionnelle à la rupture que nous avons vécue dans notre pays, car c'est loin d'être un détail. Avoir perdu notre démocratie, ou qu'elle a été mise entre parenthèses, nous oblige à déterminer des responsabilités. C'est un thème vraiment sensible, si sensible que cela a généré 37 morts et plus de 800 blessés.
Et dans les salles de rédaction aussi, le thème est toujours d'actualité. 2 juillet 2021, journal Paris Nacieté, Marco Pumari n'a pas peur des accusations dans l'affaire coup d'État. 28 juin 2021, journal El Deber, un coup d'État constitutionnel. 13 juin 2021, journal La Razón, une fraude, c'est le moment de présenter les preuves. Coup d'État d'un côté, fraude électorale de l'autre, deux vérités s'opposent, apparemment irréconciliables. Le chef de l'opposition est appelé à témoigner devant le bureau du procureur, l'Église se justifie quant à son rôle de médiateur après le départ du président. Les représentants de l'Union européenne devaient-ils s'impliquer comme ils l'ont fait ? Le gouvernement questionne qui a cherché à déstabiliser la démocratie bolivienne. Pour le journaliste écrivain Fernando Molina, les autorités ne cherchent pas réellement à pacifier le pays.
Le mouvement vers le socialisme est dans un état de choc post-traumatique. Et ce parti est très réticent à trouver des solutions autres que la sanction envers ceux qui ont agi contre Evo Morales.
Mais selon le journaliste, l'ex-présidente doit effectivement répondre de la répression sanglante des manifestations de Senkata et Sacaba.
Je me différencie de l'opposition dans le sens où il me semble qu'Agnès doit être jugée pour les massacres de Senkata et de Sacaba. Mais il faut faire un procès en responsabilité car elle a été présidente et pour cela, il faut négocier avec l'opposition. Et si le gouvernement ne parvient pas à la faire juger comme cela, eh bien, c'est à l'opposition d'assumer cette décision. Mais la solution n'est pas de poursuivre Agnès pour quelque chose qu'elle n'a pas pu faire.
Dans les salles de rédaction, dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, on veut comprendre ce qui s'est réellement passé en novembre 2019. Mais dans la rue, il se pourrait bien que les Boliviens, eux, préfèrent passer à autre chose. Alice Campagnol, La Paz, RFI.
RFI. Tous aux abris, ce lundi à Cuba, Marie, ouragan devenu tempête tropicale. Elsa passe aujourd'hui sur l'est de l'île.
Et l'île est prête, estime le journal officiel Granma, qui revient sur la réunion hier du groupe de travail gouvernemental. La principale inquiétude là-bas, c'est que la tempête frappe au moment d'une résurgence des cas de Covid-19.
Mais ce qui inquiète aussi, c'est la montée des eaux et donc les inondations qui pourraient résulter des fortes pluies attendues aujourd'hui à Cuba, comme nous le raconte Ramon, qui habite dans l'est de Cuba. Écoutez.
Ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien fermer les fenêtres, avoir nettoyé les patios, élaguer les arbres. Ici, c'est fréquent que le fleuve déborde, mais les agents municipaux sont passés et ils l'ont nettoyé en prévision d'inondation. Et on a déjà mis un petit mur devant la porte au cas où l'eau monte.
Des propos recueillis à Cuba par Domiti Piron. Marie, au cours du week-end, c'est au large de l'île d'Hispaniola qu'est passée Elsa.
Oui, avec 2 morts en République dominicaine, pas de pertes humaines en Haïti, mais des dégâts pour les cultures, nous dit le Nouvelliste, et notamment pour les avocats qui en étaient au stade de la récolte, mais aussi le maïs et les bananes, selon la protection civile.
Elsa, qui inquiète aussi la Floride, où elle est attendue après Cuba, en prévision, Marie, à Surfside hier, on a précipité la démolition du reste de l'immeuble qui s'est effondrée il y a une dizaine de jours.
Oui, les autorités craignaient qu'elle ne résiste pas, que ce bâtiment ne résiste pas à la puissance du vent attendu et que les secouristes soient mis en danger. C'est ce qu'explique le New York Times. La démolition s'est déroulée donc hier soir. Selon une responsable des opérations de secours, elle pourrait aider les chercheurs à accéder à une partie des décombres qu'ils ne pouvaient pas atteindre en toute sécurité auparavant. En tout cas, d'autres immeubles, Michael, sont actuellement sous surveillance. Des immeubles de de plus de 9 étages de la même époque, c'est-à-dire des années 70 et 80. La une du New York Times est largement consacrée à un plan qui localise ces bâtiments. Il y en a environ 270 tout de même autour de Miami.
Et pendant ce temps, dans l'ouest canadien, après la canicule, quelques 180 feux étaient encore actifs hier soir en Colombie-Britannique, où l'armée a été dépêchée pour combattre les flammes. Symbole de cette catastrophe, le village de Lytton, au nord-est de Vancouver, près de 50 degrés y ont été enregistrés la semaine dernière. Aujourd'hui, Lytton est ravagé à 90% par ces feux. Ses habitants ont dû être évacués très rapidement en milieu de semaine dernière, mais pas tous, et c'est compliqué en raison des communications difficiles, comme nous l'explique John Hogan, chef d'une communauté autochtone importante qui vit à Lytton.
Il faut qu'on réussisse à savoir qui a toujours une maison. On sait où sont une grande partie des membres de notre communauté. Certains ne sont pas encore en sécurité, notamment des personnes handicapées. Il y a une dame de 90 ans qui a besoin d'assistance pour être évacuée dans un endroit très reculé. Il y a tous ces défis qui, en quelque sorte, s'accumulent.
John Hogan, joint à Cache Creek, en Colombie-Britannique. Le coup de sang de Nicolas Maduro, à présent mécontent de COVAX, censé garantir des vaccins anti-Covid aux pays les plus pauvres. Le président vénézuélien, Marie, pose un ultimatum.
Oui, le président cité par Talqual dit que le système COVAX a échoué au Venezuela. Nicolas Maduro soutient avoir payé intégralement ce qu'il devait, mais ne pas avoir reçu en retour les vaccins promis. C'est un complot, laisse-t-il entendre, contre le Venezuela. Il exige une livraison immédiate ou le remboursement des sommes versées. Selon le président Maduro, toujours environ 11% de la population est aujourd'hui vaccinée, un chiffre largement surévalué, pense El Nacional. Selon l'université américaine Johns Hopkins, seul 0,8% de la population vénézuélienne est vaccinée. Vaccination subordonnée au don de vaccins des alliés du régime, à savoir la Russie, la Chine ou encore Cuba.
Et quand le Salvador, lui, a reçu hier soir 1,5 million de doses de vaccins Moderna, des doses données par les États-Unis dans le cadre de ce programme COVAX. Ce qui nous amène à Washington, où le président Biden a fait hier, lors du 4 juillet, pour le jour de la fête de l'indépendance, un discours plein de promesses, Lumna Anaki, après plus d'un an et demi de pandémie.
Today we celebrate America.
Célébrer l'Amérique et son indépendance avait cette année un goût particulier. Pour le président américain qui avait promis un 4 juillet presque normal, il était primordial de marquer les progrès réalisés depuis le début de la pandémie.
Cette année, le 4 juillet est une célébration plus spéciale, car nous sortons des ténèbres d'une année de pandémie et d'isolement. Une année de douleur, de peur et de deuil déchirant, nous avons parcouru du chemin.
S'exprimant depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a également insisté sur le fait que le combat n'était pas terminé.
Je vous en supplie, si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous faire vacciner. Allez-y, pour vous, vos proches, votre communauté, pour votre patrie.
Joe Biden avait fixé un objectif de 70% de la population vaccinée pour la fête nationale, mais ce chiffre stagne depuis plusieurs semaines autour de 65%, certains Américains restant réticents à se faire vacciner. Le président avait toutefois promis un 4 juillet avec des pique-niques en famille, des rassemblements et des feux d'artifice. Et ce dimanche, ils étaient des millions à célébrer la fête de l'indépendance comme avant. Ou presque. Lumna Anaki, New York, Kéré.
Et si Joe Biden, on l'entendait, lui a décidé de passer son premier 4 juillet à Washington, quelques-uns de ses prédécesseurs avaient pour habitude, Marie, de s'éloigner de la capitale fédérale.
Oui, par goût ou par calcul politique, nous explique le Washington Post. Bill Clinton, par exemple, avait demandé des sondages sur les voyages qui seraient les plus favorables à son image. Résultat, il a fini par pêcher et faire des randos dans le Wyoming, lui, dont les activités de plein air se limitaient le plus souvent au golf. Mais ça a marché, hein, puisque ça a fait apparaître la famille Clinton comme une famille normale, apprend-on. Autre destination de choix, celle de Theodore Roosevelt ou encore de Barack Obama, les parcs nationaux gérés par le gouvernement fédéral et donc très sécurisés. Le journal décrit aussi les vacances à Camp David, résidence la plus courante des présidents, ou encore récemment, Joe Biden a battu sa petite fille à Mario Kart. On On est en tout cas bien loin de l'époque d'Abraham Lincoln, pour qui les vacances d'été consistaient simplement à parcourir 4 miles à cheval pour retrouver sa famille dans le nord-ouest de Washington.
Ouais, il est un peu âgé, hein, Joe Biden, mais il peut jouer à Mario Kart et pas seulement faire du cheval.
Pourquoi pas ?
Enfin, le 4 juillet, les Américains s'adonnent aussi à une autre passion. Passion qui donne lieu, Marie, à un incroyable concours annuel. Là, c'était à New York hier.
Oui, ça vous tient à cœur, hein, ce concours, Mickaël. On le sait, le concours du plus grand mangeur de hot dogs. C'est à lire dans USA Today aujourd'hui. L'homme s'appelle Joey Chestnut et hier, il a battu son propre record. Il a englouti 76 hot dogs en 10 minutes. Et il va bien. Écoutez. Je suis tout gonflé, tout suant, explique. J'ai besoin de m'allonger et de boire un peu d'eau. Chez les femmes, la championne s'appelle Michelle Lescaut avec 30 hot dogs et 3 quarts, c'est précis, toujours en 10 minutes.
C'est absolument ragoûtant, je vous conseille les images. Merci beaucoup Marie, un petit mot de sport plus conventionnel, vous m'excuserez, le foot, la Copa América. Le Brésil et Neymar retrouvent le Pérou ce lundi en demi-finale. Le vainqueur affrontera soit l'Argentine, soit la Colombie qui eux s'affrontent demain dans l'autre demi-finale. Merci beaucoup Marie.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on enchaîne avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
110 nouveaux cas de Covid entre le 21 et le 27 juin contre 86 la semaine précédente. En Martinique, le coronavirus est toujours bien présent.
Et ça inquiète fortement l'Agence régionale de santé, d'autant qu'on ne se bouscule pas, malheureusement, un peu comme partout, qu'on ne se bouscule pas vraiment donc en Martinique dans les centres de vaccination. Bianca Carreto.
Pour l'instant, 45 000 vaccins ont été réalisés, les deux doses confondues. Cela représente à peine 19 %. L'ARS tire la sonnette d'alarme car nous sommes loin de la couverture vaccinale. Il se pourrait à ce rythme-là que l'on vive une quatrième vague. C'est en tout cas le point de vue d'Olivier Coudin, directeur général adjoint de l'ARS.
Donc on est très inquiet de l'évolution actuelle de la situation, d'autant plus que nous savons que le variant indien est un variant très contagieux qui est aujourd'hui en circulation en Martinique. Et puis la Martinique a un taux de vaccination très faible. Et la crainte, c'est que s'il y avait une quatrième vague, compte tenu de notre taux de vaccination très faible, on risquerait d'avoir beaucoup de personnes malades sur le territoire.
Sur les 3 premiers jours de la semaine, 171 personnes ont été testées positives. Selon la projection de l'ARS, à la fin de la semaine, on devrait atteindre les 300 personnes positives au coronavirus.
Direction maintenant la Guadeloupe, où un avion de la compagnie Sky High, High comme O-H-I-G-H, s'est posé hier dimanche pour la première fois. La compagnie venant de la République dominicaine assurera désormais 3 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre et 2 vols à destination de Fort-de-France. Le tout à la grande satisfaction du directeur des opérations de l'aéroport Paul Caraïbe, l'aéroport de la Guadeloupe, Jérôme Siobud, est au micro de Bruno Pensiovillon.
Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette nouvelle compagnie qui va desservir donc la Guadeloupe au départ de Saint-Domingue. Notre vocation est d'élargir au maximum notre portefeuille de compagnie et bien évidemment développer notre réseau. Tout ce qui contribue à rapprocher les îles entre elles est une bonne chose. Aujourd'hui, le plus, c'est que cette compagnie donc arrive en jet. Donc ça réduit un peu le temps de vol. Mais surtout, elle offre des opportunités de correspondance à destination qui font que les passagers au départ de la Guadeloupe auront un choix beaucoup plus large de destination au travers de la Caraïbe et vers l'Amérique centrale. Il faut savoir quand même que la desserte de Saint-Domingue était déjà assurée par les compagnies locales que sont Air Caraïbes et Air Antilles. Et donc cette concurrence en tout est bonne, mais il faudra voir qu'on soit vigilant de la façon dont elle s'exerce, puisque bien évidemment, il faut qu'elle se fasse dans des meilleures conditions d'équité.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce journal d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition et bien sûr aussi en attendant vous pouvez nous retrouver et nous réécouter sur RFI, Pure Radio et sur les réseaux sociaux. Bonne journée, à demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Du 7